Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella.
« Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. »
Lorsque Jésus fut parvenu à cette... Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur !» Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit
« Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. »
Jésus lui dit alors
« Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Bon, la fin est un peu abrupte, légèrement. Un petit peu comme la parabole de Jésus, cette parabole, vous savez, ces histoires inventées mais qui sont plausibles. La parabole du riche insensé, vous savez, celui qui engrange, enfin, peut-être vous ne savez pas, mais c'est l'histoire d'un agriculteur ou d'un homme riche qui engrange du blé dans ses greniers. Et puis qui est pris un jour par la mort. Et ces histoires avec la fin abrupte, la vidéo avec Tom Cruise, qui était bien jeune à l'époque, il a vie aujourd'hui, mais et cette parabole sont là pour nous faire réfléchir sur la vie et sur ce qu'on y met dans cette vie, et puis la réussite de la vie, et puis les critères de réussite de la vie. Yvonne nous en a déjà un petit peu parlé, mais quels sont ces critères? Quels sont les critères pour dire qu'une vie est réussie ou pas? Alors vous me direz, ça dépend des gens, et vous auriez raison, mais il y a peut-être quelques critères de réussite qui prévalent dans notre société. Il y a quelques années déjà, on a fait un sondage, la Sofres s'en est chargée, c'était pour Le Point, et devinez quel est le premier critère de réussite de la vie pour les Français? L'amour? Ouais, c'est très français ça. Eh bien non, ce n'est pas l'amour. C'est la famille. Comme le disait Yvonne tout à l'heure, pour 74% des Français, c'est la famille qui vient en premier. Réussir sa famille, c'est réussir sa vie. C'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est pas la renommée internationale, c'est pas le succès, c'est la famille. Alors c'est très bien, et c'est peut-être très vrai, mais ce qui est troublant, c'est que dans le même sondage, un petit peu plus loin, dans le même sondage, à la question « quelle est la personne qui, selon vous, a réussi le mieux sa vie ?», c'est Mère Teresa qui est ressortie pour la majorité des Français. La personne qui a le mieux réussi sa vie, c'est Mère Teresa. Et elle n'a pas de famille. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de mari. Elle a peut-être la grande famille des enfants de Calcutta, mais elle ne correspond pas aux critères de réussite. Et pourtant, les Français ont voté, l'ont plébiscité pour celle qui aurait réussi le mieux sa vie. Alors ce résultat un petit peu contradictoire montre deux choses à mon avis. C'est que la première, c'est qu'il y aurait peut-être autre chose que simplement la famille comme critère pour réussir sa vie. Quelque chose peut-être de moins évident que cela. Et puis deuxièmement, ce résultat un peu contradictoire montre la difficulté d'avoir des critères de réussite pour juger de la réussite d'une vie. Alors, vous êtes déjà posé la question, mais je vous la pose quand même. Ce matin-là, en ce moment même, quel est votre critère pour juger de la réussite de votre vie? Sans le dire. On a demandé aussi à quelques personnalités de répondre à cette question des critères d'une vie réussie. Mireille Mathieu, grande personnalité, mais a tout simplement répondu qu'il s'agit de réaliser ses rêves. Pour elle, je rêvais de chanter, je chante, j'ai chanté dans, un peu partout dans le monde, donc j'ai réussi ma vie. C'est du Mireille Mathieu. Non, Mireille Mathieu, oui. Et puis, alors on a demandé à une autre, enfin pas une autre, à une écrivain, Christine Angot, qui répondait quelque chose de très intéressant là-dessus. Et elle posait une question. Une journée réussie est-elle une journée où tout s'est bien passé ou une journée qui s'est bien terminée? Ça, c'est pas mal. Parce que il est évident que le sentiment que l'on a à la fin d'une certaine durée de temps, que ce soit une journée ou une vie, que le sentiment que l'on a à la fin est déterminant pour juger de l'ensemble ou de la réussite de l'ensemble de ce temps. La fin, c'est à la fin qu'on juge qu'une vie est réussie ou pas. Et ça rejoint un petit peu la vidéo que l'on a vue, ou la parabole du riche insensé, c'est à la fin qu'on fait les comptes en quelque sorte. Et puis il y a les pessimistes par rapport à la réussite de la vie. Il y a un psychiatre ethnologue qui est assez connu, je pense, en tout cas son nom me disait quelque chose, Cyril Nuc. C'est pas ça? C'est inversé? Mais moi je suis dyslexique, c'est pour ça. Mais alors, voici ce qu'il dit: quoi que l'on fasse, c'est raté. Une vie, même réussie, n'est jamais à la hauteur des besoins de l'individu. Même si l'on a réussi sur le plan affectif, intellectuel et social, on a un sentiment d'échec. La réalité est en deçà de ce que l'on aurait voulu faire. Et c'est un constat, je veux dire, d'échec total, hein ? Échec sur toute la ligne. Et ce n'est pas très encourageant, mais ça a le mérite d'être clair. Et quelque part, il faut faire avec ça aussi. Et puis, je termine par une dernière personnalité intéressante qui a un peu de caractère. C'est Catherine Millet. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je pense qu'elle a quand même pignon sur rue, mais qui un peu détonne dans le paysage de la réussite. Et à la même question, qu'est-ce qu'une vie réussie? Elle répond, quoi? En plus, il faudrait la réussir, la vie? Il faut déjà la gagner et ne pas gâcher celle des autres, et en plus il faudrait la réussir. Comme si cela n'était pas suffisant de surveiller les notes des enfants, de s'arrêter de fumer et de rester sexy jusqu'à 70 ans. Ça c'est Catherine Millet. Et on la sent un peu parisienne et un peu provocatrice, mais elle n'a pas tout à fait tort, il y a comme une pression dans notre société de tout réussir. Son CP, sa sixième, son brevet, son bac, sa carrière, son mariage, l'éducation de ses enfants, réussir sa retraite et finalement réussir son enterrement aussi, c'est important. Nous sommes dans une société qui ne permet plus l'échec. Alors, on sent bien qu'il faut prendre du recul par rapport à cette société du toujours gagnant. Et en même temps, on doit avouer que nous ressentons tous, et ça peut-être indépendamment de la pression ambiante, nous ressentons tous le désir ou même le besoin de réussir un peu ou quelque part notre vie. En tout cas, de ne pas passer complètement à côté de cette vie. De ne pas complètement se rater dans cette existence. Bref, il y aurait comme une envie de réussir. Et on se souvient de la chanson de Daniel Balavoine. Je me présente, je m'appelle Henri. Et vous pouvez mettre votre prénom à la place d'Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Et je crois qu'on peut se retrouver tous, pas tellement dans le blouson en cuir un peu court de Balavoine, mais dans ce « je voudrais bien », avec beaucoup d'humilité, de timidité, « je voudrais bien, mais je peux point. Je voudrais bien réussir ma vie. La tâche paraît difficile. Comment réussir sa vie ?» Et dans les cultes en 3D, on ne veut certainement pas donner des recettes comment réussir sa vie en 15 leçons. Non, mais on veut écouter une autre voix, peut-être, que celle de la société. Et il me semble que sur la question de la réussite de la vie, cela vaut la peine d'écouter une autre voix que celle des hommes, aussi intelligents soient-ils, peut-être parce que cette question et cette question d'une vie réussie pose la question de l'autorité. Qui a autorité pour parler d'une vie réussie ? Qui parle ? Qui peut dire qu'une vie a été réussie ? Qui définit les critères ? Est-ce que ce sont mes impressions ? Est-ce que ce sont les sentiments d'avoir accompli mes rêves ? Ma satisfaction d'avoir pu développer tout mon potentiel ? C'est ça ? C'est ça la voix qu'il faut entendre ? Moi, je me dis qu'il faut un regard un peu extérieur pour répondre à la question de la réussite de la vie. Quelqu'un, une voix, quelqu'un qui serait un peu extérieur ou quelqu'un d'extérieur, mais qui serait en même temps très impliqué dans la vie des gens. Et ce quelqu'un, vous le sentez peut-être venir, mais c'est Dieu lui-même. À la fois d'extérieur, mais tellement impliqué dans la vie des gens. Et Dieu, l'inventeur génial de la vie, me semble être la personnalité idéale pour parler de la réussite d'une vie. C'est en tout cas ce que nous pensons en tant que chrétiens ici. Et vous avez le droit, vous qui nous rendez visite peut-être ce matin, de n'être pas d'accord. Mais il me semble quand même que l'autorité d'une parole extérieure se tient et vaut la peine d'être entendue. Et je pense à cette parole de Jésus, parole de Dieu fait homme, une parole que nous trouvons dans la Bible. Il parle d'un homme qui a mené une vie de service et qui s'entend dire à la fin de sa vie par Dieu lui-même, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Et là, c'est une parole extérieure. Ce n'est pas une impression de réussite ou un sentiment, mais quelqu'un qui déclare cela, qui déclare cette vie réussie, et quelqu'un d'extérieur et qui aurait autorité sur la question et qui lui dirait à cet homme, tu as réussi ta vie, c'est moi qui te le dis. Moi, le spécialiste de la vie, tu as réussi cette vie, rentre dans la joie de ton maître. Et la question qui se pose, encore une, à la fin, qu'allons-nous entendre comme parole sur notre vie ? Ça, c'est la véritable question. Et pour aller plus loin sur cette question de la réussite d'une vie, j'aimerais commenter cette histoire de Zachée que nous avons lue tout à l'heure. Zachée, c'est l'histoire d'un homme qui a réussi dans sa vie. Il était péager, c'est-à-dire il recevait l'impôt, percepteur d'impôt, il était chef. Ça, c'est signe extérieur de réussite, n'est-ce pas ? Être chef. Il a payé sa licence à prix d'or, à l'occupant romain. Il peut tout faire. Il lui suffit de verser une certaine somme aux Romains. Après, il est libre d'imposer ce qu'il veut à la population. C'est bien comme situation. Et en plus, il est chef du collectif des collecteurs d'impôts. Il a du pouvoir, il a de l'argent, il est respecté, il est même craint. Il a réussi dans sa vie selon les critères les plus évidents. Mais Zachée, c'est aussi l'histoire d'un homme pris dans des énormes contradictions. Son nom Zachée en araméen, ça veut dire le pur. Alors que chacun sait que puisqu'il est collecteur d'impôts, il a les mains sales. C'est pas possible à l'époque. À l'époque, hein, je précise. Non, je précise sérieusement. D'être honnête et collecteur d'impôts. Et il tripote de l'argent sale, c'est un collaborateur, c'est un pur malhonnête. Et je me demande comment Zachée, quand il compte son argent, mal acquis, doit-il se sentir quand il pense à son nom. Moi le pur, j'ai les mains sales. Et puis c'est le caïd de Jéricho. Il roule les mécaniques sur les Champs-Élysées de Jéricho, sur la croisette de Jéricho. Moi, je le vois bien en Al Pacino, Zachée. On a parlé de Tom Cruise, mais Al Pacino, il ferait bien Tom Cruise, Zachée. Et il joue les caïds, mais il est petit. Il est de petite taille. Le texte nous le dit, le récit nous le dit. Autre contradiction dans sa vie, il veut jouer au grand, mais il est petit. Peut-être d'ailleurs il cherche à compenser sa petite taille en jouant au grand. C'est souvent comme ça hein, dans la vie. On cherche à compenser et on est dans des comportements un peu bizarres. Alors on ne veut pas psychanalyser Zachée, mais ce ne serait pas impossible. Et puis il est riche, Zachée. Il est plein aux as, il a tout ce qu'il faut et même plus. Il a chez lui tous les signes extérieurs de richesse, mais il est pauvre en même temps. Il est pauvre en relation parce qu'il est seul, Zachée. Il est craint, il est respecté, mais il est seul. Il n'y a personne pour lui, pour l'aider. D'abord pour l'aider à voir Jésus, il est obligé de monter sur un arbre et sur cet arbre perché, il est seul. Il est riche, mais il est seul. Il est pur, mais il est sale. Il est grand à Jéricho, mais il est petit. Et donc, il est pétri de contradictions, ce Zachée. Ça nous rappelle quelqu'un, ça. Ça nous rappelle nos contradictions. Mais il a fait le choix de la réussite aux dépens des relations, et ce choix, il doit le regretter, parce que Zachée, c'est aussi l'histoire d'un homme en manque de réussite, en manque de vraie réussite, en manque de vraie vie. Et je crois voir dans le fait qu'il court dans la rue et qu'il monte sur un arbre pour voir le signe de sa fragilité, de l'homme qui a réussi. Il y a des failles dans la vie réussie de cet homme. Il est en manque de réussite, Zachée. Et ça se voit. Et Jésus le voit. Et il est prêt, Zachée, à se montrer ridicule, à dévoiler ses contradictions devant tout le monde. Tout le monde voit qu'il est petit, le petit Zachée, le pur Zachée, le seul Zachée, il est là, sur cet arbre. Mais il est prêt à montrer ses contradictions au grand jour, tellement il souffre de lui-même. Il souffre de sa vie réussie. Il souffre dans le mensonge sur lui-même. Et puis Zachée, c'est l'histoire d'un homme, d'une rencontre qui change la donne. Il est dans l'arbre. Jésus ne peut que le voir, il s'invite chez Zachée, et Zachée l'accueille chez lui, à moins que ce soit Jésus qui accueille Zachée, on ne sait plus très bien qui accueille l'autre, mais en tout cas il y a une rencontre personnelle d'homme à homme et d'homme à Dieu. Une rencontre qui change tout. Déjà en descendant de l'arbre, Zachée est plein de joie, ensuite juste l'entrée de Jésus chez lui fait dire à Zachée des choses qu'il n'a jamais dites et qu'il n'a jamais faites. Il prend des résolutions, je vais donner des choses aux autres, je vais me mettre à servir les autres, je vais m'ouvrir aux autres, je vais ouvrir mon cœur parce que Jésus lui a ouvert le cœur. Juste en lui demandant d'entrer chez lui, juste en s'accueillant chez lui. Et le récit se termine en disant: le salut est entré dans cette maison. Et on n'a plus de nouvelles de Zachée après dans la Bible, mais tout laisse à penser que le salut n'en est jamais ressorti. Le salut ou la rédemption ou le renouvellement ou la réussite. Zachée, c'est l'histoire d'un type qui était mal parti, mais qui en définitive a réussi sa vie. C'est une belle histoire que cette histoire de Zachée, l'histoire d'une vie réussie. L'histoire d'un homme qui avait réussi dans la vie, mais qui, pour finir, réussit sa vie. La vraie. Alors, je vous avais pas promis de ne pas mettre de recette, mais je vous donne quand même 4 points pour réussir votre vie devant Dieu. Et j'ai pensé au mot « interpellation ». Comme Jésus interpelle Zachée sur son arbre. 4. Interpellation de Dieu pour nous qui sommes perchés sur notre arbre et qui essayons de réussir notre vie avec plus ou moins de réussite. Et la première interpellation pour ceux qui sont sur leur arbre perché, ce serait de réévaluer nos critères d'une vie réussie, nos critères de réussite. On s'aperçoit vite que les critères de notre société ne sont pas vraiment fiables. Trop de monde semble avoir réussi dans la vie sans avoir réussi leur vie. Et il faut donc revoir nos critères. Et Jésus nous disait cette parole extraordinaire qui ne peut venir que d'un homme qui a autorité sur les questions de la vie: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il se perd lui-même? Que sert-il à un homme de réussir dans la vie s'il se perd lui-même ? Et sans manipuler le sens du texte, je pense franchement que l'on peut y mettre l'expression réussite. Que sert-il à un homme d'avoir réussi dans la vie, ou même d'avoir réussi sa vie selon les critères de ce monde, si au bout du compte, dans cette recherche même de la réussite, il se perd lui-même, il se liquéfie, il se dissout. Et cette parole de Jésus fait réfléchir et nous invite à réexaminer nos critères de réussite. Est-ce que vraiment ils tiennent la route ? Est-ce que je ne me suis pas laissé influencer par la voix des sirènes, comme Ulysse dans l'Iliade, vous savez, qui se fait enchaîner au mât de son bateau pour résister à la voix des sirènes de la réussite qui l'entraîne vers les récifs ? Et de cette manière, de la même manière, Jésus nous dit d'avoir le courage et le bon sens de remettre en question les critères de réussite de notre société. Et il nous dit, quelque part, cette parole de bon sens, attention à ne pas tout perdre en voulant tout réussir. La deuxième interpellation, pour ceux qui ont pris de la hauteur sur l'arbre, c'est de rester sensible aux cris de son cœur. Pour ceux qui me connaissent, vous ne me connaissez pas encore depuis très longtemps, mais j'aime pas trop mettre les choses au niveau du cœur. Sentiments, ça va, ça vient, donc le cœur étant perçu souvent comme le siège des sentiments, j'aime pas trop. Mais là, il me semble que Zachée, il a écouté son cœur. Il s'est mis à courir et à monter sur un arbre pour voir Jésus et peut-être pour mieux se laisser voir. Et pourquoi il a fait cela ? Très probablement parce qu'il n'est pas satisfait de la réussite dans sa vie. Et j'imagine que le soir, son cœur, ou sa conscience, ou son esprit ne le laisse pas tranquille. Et il sent de manière diffuse qu'il y a dans son cœur, comme le disait saint Augustin, un vide en forme de Dieu. Que l'âme ne peut se satisfaire de simplement compter son argent le soir. Et Zachée sent peut-être qu'il manque une dimension spirituelle à son existence et que ce gars qui passe dans le coin, Jésus, peut peut-être l'aider. Et on connaît la suite. Et Dieu nous interpelle aussi au niveau du cœur, en plein cœur, de notre fragile réussite humaine. Et il faut écouter ce cœur où il y a un trou en forme de Dieu. Et puis la troisième interpellation, c'est d'entrer en relation avec Dieu comme Zachée, se laisser accueillir par Jésus et accueillir Jésus chez soi. Et là, la Bible nous parle de conversion, qui n'a rien à voir, la conversion, avec une adhésion à un système religieux, mais qui a tout à voir avec le changement du cœur, qui a tout à voir avec un changement d'orientation de sa vie, où on passe d'une vie à la recherche de réussite selon des critères minables à une vie plus authentique où l'on ne cherche plus à impressionner les autres par sa réussite, un petit peu pour se sécuriser soi-même ou pour s'impressionner soi-même. Non, on arrête tout ce petit jeu qui détruit à petit feu et on change tout cela et on veut changer, on a changé, on change. On change d'orientation parce que on a entendu quelqu'un qui nous dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Et que ce quelqu'un qui dit cela va dire aussi « Et je donne ma vie pour mes brebis. » Et ce Jésus qui veut que nous réussissions notre vie avec lui est mort sur une croix. Et quelque part, il a raté sa vie, Jésus. La croix, c'est pas juste le symbole chrétien. C'est la peine la plus abjecte que l'on pouvait donner à l'époque par les Romains, réservée aux esclaves en fuite ou aux meurtriers qui n'étaient pas romains, les Romains étaient exemptés de la crucifixion. Jésus vit la croix. Jésus rate sa vie. La croix, c'est non pas juste un symbole, mais c'est le signe de l'échec de Jésus, d'un ratage énorme de vie. Jésus a raté sa vie. Jésus a raté sa vie, mais il n'a pas raté la nôtre. Il a réussi ma vie. Il a raté sa vie pour que nous réussissions la nôtre. Il y a eu sur la croix comme un transfert de vie réussi. Et la résurrection qui a suivi la mort de Jésus-Christ est venue valider ce transfert. C'est comme si on appuyait la touche valide avec la résurrection. Dieu valide la mort de Christ. L'échec de Jésus sur la croix est devenu notre réussite. Jésus se présente comme le bon berger, et ce qui caractérise le bon berger, c'est de donner sa vie pour ses brebis, puis d'aller chercher très loin celle qui est perdue. Et ce berger va très loin, au-delà de ce qui est raisonnable, et il va mettre sa vie en péril pour une brebis. Et le fait que ce berger mette en jeu sa propre vie pour chaque brebis perdue, perdue dans ses contradictions, donne à chacune de ces brebis une valeur inestimable. Chaque brebis peut se dire « Moi, je suis aimé du berger. Il est allé me chercher très loin. Et il a payé de sa vie pour moi. Si le berger a pris tous ses risques pour moi, c'est que je dois en valoir la peine, que ma vie de brebis en vaut la peine et qu'il y a peut-être moyen que je réussisse ma vie de brebis. » Et si on quitte l'image de la brebis qui n'est qu'une image, on pourrait dire que chaque personne qui reconnaît l'amour de Dieu pour lui pourrait mettre au dos de son t-shirt « Ma vie est déjà réussie en lui. » Vie déjà réussie. Jésus a déjà réussi ma vie, il est allé me chercher très loin et il va me mener très loin jusque dans la vie éternelle. Et le fait de se savoir aimer de lui, de savoir que notre vie est déjà réussie en lui, va me permettre de réussir ma vie qu'il est déjà. Je vais pouvoir réussir ma vie qu'il est déjà. Il n'y a plus de pression, mais il y a une nouvelle motivation. J'ai rencontré en Belgique un type qui s'appelait Andy. Et Andy est un ancien homosexuel qui avait fréquenté les milieux gays de Californie. Et quand je l'ai rencontré, il était marié et père de 4 enfants. Et il faisait des conférences sur la restauration de l'identité. Andy avait fait une rencontre comme Zachée avec Jésus, et il s'était senti accueilli comme il l'était avec toutes ses contradictions. Et le salut est entré dans la maison d'Andy. Il a retrouvé en Jésus son identité et une espérance pour la vie. Alors, c'est un peu délicat de parler de ces choses aujourd'hui, mais voilà un témoignage qu'il faut recevoir aussi. Andy, l'homosexuel qui est accueilli par Jésus et qui retrouve une identité et une vie réussie. Et puis dernière... Ah, j'ai oublié le texte. Et puis dernière interpellation. Pour réussir ta vie en Dieu, entre en mode service. Ça y est, Jésus, à un moment, quand il était entouré de ses disciples, leur a dit une phrase, et il faut bien voir que ses disciples, avant d'être disciples, c'était des hommes, et tous les hommes ont envie de réussir leur vie, et là, ils étaient disciples de Jésus, donc ils ont envie de réussir leur vie de disciples, donc ils se battaient régulièrement pour savoir qui était le meilleur disciple entre eux. Ils se disputaient pour avoir la première place dans la hiérarchie du disciple qui a réussi, et Jésus les reprendra souvent sur ce sujet, et en particulier dans ce verset, et il va dire à ses disciples que celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur. Jésus, dès le départ, introduit un autre critère pour juger de la réussite d'une vie, quelle qu'elle soit, le critère du service. Le service comme critère de réussite pour Dieu. Le service des autres, bien entendu, ou le service de l'autre avec un grand A qui passe par le service des autres. Et on n'est pas toujours convaincu de la grandeur et de la valeur du service comme critère d'une vie réussie. Ouais, bon, d'accord. Et pourtant, Le service, quand on y réfléchit bien, c'est le seul objectif dans la vie qui ne détruit pas la personne qui le poursuit. Le service de soi nous détruit, nous consume à petit feu. Le service de l'autre nous libère et nous fait avancer dans la joie. Et pour Zachée, ça a eu lieu. Cette ouverture aux autres par le service va agir comme une puissance libératrice et lui permettre de sortir de son égocentrisme et de sa solitude où son égocentrisme l'avait laissé. Il y a Mère Teresa, la personnalité qui a le mieux réussi, selon une majorité des Français, qui dit « Je ne suis pas appelé à avoir du succès, mais à être fidèle dans mon service. » Et tous les serviteurs engagés, là où ils sont, dans les petites ou de grandes choses, peu importe, entendront un jour cette phrase « C'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Et nous donc, qu'allons-nous entendre à la fin de notre vie ? Va-t-elle être réussie ? Et surtout, quels seront les critères qui vont accompagner notre vie pour la réussite ? Il y a des paroles à entendre sur la réussite d'une vie, réussir sa vie. Et j'ai envie de dire, c'est mission possible, si du moins on est prêt à se laisser interpeller par celui qui a les paroles de la vie et de la réussite de la vie, de la vraie vie, de celui qui nous aime d'un amour éternel, de celui qui est le bon berger et qui va nous chercher très loin et qui est prêt à payer de sa vie pour ses brebis. Et je vous fais un aveu. En tant que pasteur, j'ai aussi besoin, ce n'est pas un aveu, tout le monde le sait, vous le saviez déjà, j'ai aussi besoin de me laisser interpeller par ces paroles, régulièrement. Parce que même si je suis à moitié sourd, j'entends encore le chant des sirènes. Les sirènes d'une pseudo-réussite, d'une réussite qui me détruirait, je le sais. Mais je les entends encore, je les entends quand même. Et j'ai besoin de me laisser interpeller par Jésus qui me dit « Où est la vraie réussite d'une vie ? Elle est avec moi, moi le bon berger, qui a pour toi un avenir fait d'espérance. » Et je me dis qu'il est très possible que vous aussi, vous ayez besoin de vous laisser interpeller par l'une ou l'autre de ces paroles, par ces quatre interpellations, nous tous qui sommes sur un arbre perché, comme Zachée, en cherchant de réussir, à réussir sa vie, et en ressentant ce besoin de quelque chose de plus. Je voudrais vous inviter à la prière, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Pour toi qui es la parole et qui nous dit des paroles de vie comme tu les as dites à Zachée. Aujourd'hui, tu t'adresses à chacun d'entre nous. Et Seigneur, je voudrais te prier pour celle et celui qui ce matin a besoin de réévaluer ses critères de réussite. Celui ou celle qui s'est peut-être laissé entraîner par la voix des sirènes de la réussite, je te prie pour qu'il ou elle puisse réentendre ta voix, Jésus, qui lui dit « À quoi sert à un homme, à une femme, de gagner le monde s'il se perd lui-même ou elle-même » Donne-nous, Seigneur, de retrouver nos priorités, les priorités de notre être intérieur, de notre âme. Je te prie pour celui ou celle qui ce matin a besoin d'écouter le cri de son cœur, qui leur dit qu'il a aujourd'hui besoin de quelque chose de plus profond, de plus authentique que simplement une vie pour la réussite. Je te prie pour qu'il entende ce cri et cette parole qui vient de toi et qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Je te prie pour qu'ils puissent venir à toi tels qu'ils sont. Je te prie pour qu'il ou elle puisse laisser parler son cœur. Je te prie pour celui ou celle qui ce matin ressent l'appel d'entrer en relation avec toi, de te rencontrer personnellement, de se laisser accueillir par toi. Je te prie pour qu'il ou elle puisse laisser nos prétentions de réussite personnelle de côté et te laisser prendre toutes nos contradictions. On veut entendre ta voix qui nous dit que tu veux nous donner la vie et la vie en abondance. Je te prie pour celles et ceux qui ce matin ont besoin de se décentrer d'eux-mêmes, pour entrer dans une vie de service, pour celles et ceux qui ont besoin de laisser tomber le service de soi pour entrer dans le service de l'autre, dans le service des autres, celui qui donne la vie. On veut entendre cette parole où tu dis, Seigneur, là où je suis, là aussi sera mon serviteur, cette parole de proximité. Merci pour ton amour, Seigneur, manifesté à la croix. Merci pour ta résurrection qui donne la vie. Merci parce que tu as donné ta vie pour que nous puissions la réussir. Donne-nous, Seigneur, de t'accueillir tout à nouveau ou pour la première fois dans nos vies. Seigneur, toi, tu es le bon berger de nos vies. Tu sais ce qui est bon pour nous et on veut t'accueillir dans nos vies pour que tu en fasses du bien pour les autres et pour nous-mêmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le bon berger, nous te prions. Amen.